Bienvenue à ce premier petit cours d'histoire mondiale. Ici l'historienne Évelyne Ferron et comme annoncé précédemment, Historio Info se transforme en un vaste programme de cours d'histoire générale mondiale et cela à votre demande. En effet, vous avez été nombreux et nombreuses depuis plusieurs mois et même plusieurs années à m'aborder pour me demander quand j'allais refaire une certaine formule de cours d'histoire. C'est ce que j'avais fait pendant le plus fort de la pandémie en direct sur ma page Facebook professionnelle, Évelyne Ferron Historio. Et quand j'avais le temps surtout. Alors là, les livres, du moins une partie de mes livres sont sur le marché maintenant. J'ai un peu plus de temps, alors ça y est, on va pouvoir l'essayer, on va voir ce que ça donne. Mais avant de commencer, voici ce qu'est et ce que n'est pas ce nouveau format de balado. Dans un premier temps, je considère le savoir et les connaissances générales comme essentielles pour naviguer dans notre monde qui est, il faut le dire, de plus en plus polarisé et complexe. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pris la décision d'offrir un cours d'histoire en format balado et gratuit. Il faut dire que je suis prof d'histoire au niveau collégial et universitaire depuis près de 20 ans maintenant et je suis vulgarisatrice en histoire dans les médias, entre autres à la radio, depuis plus d'une décennie également. Alors, la transmission de l'histoire au grand public, c'est comme devenu une seconde vocation. Parce que bien comprendre l'histoire, ça implique, de mon humble point de vue, un parcours qui est à la fois chronologique et thématique, et c'est ce qu'on va essayer de faire au gré des saisons. Donc, je vois ça sur plusieurs saisons pour faire quelque chose comme ça, parce que comme notre monde est vaste, attendez-vous à ce que la première saison fasse une tournée mondiale, surtout des époques de la préhistoire, du néolithique et de l'Antiquité. Juste avec ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel si on veut couvrir une partie de la planète. Il devrait y avoir en moyenne 2 épisodes par mois, sauf exception, parce que ça va dépendre de mon horaire d'enseignement, d'écriture et de conférences qui peut par moment être assez chargé. Il y a de la correction aussi qui s'ajoute à ça dans ma vie. Chaque épisode dure en moyenne 30 minutes. Parfois, ça peut être un peu plus long, parfois un peu plus court. Donc, je ne fixe pas vraiment là, un minutage très, très précis non plus. Le but, couvrir le sujet à l'étude du jour et c'est suffisant. Et je considère quand même qu'une trentaine de minutes, c'est la bonne durée là, pour que vous puissiez garder votre concentration sur la matière en vedette. Il y aura parfois aussi des épisodes bonus sur des sujets thématiques ou des découvertes archéologiques qui viennent ajouter un peu à la matière qu'on est en train de voir. Et fait important, bien, sachez que ce contenu est le mien. Il est adapté, il est très vulgarisé pour que le plus grand nombre de gens puissent bien suivre et acquérir des connaissances de base. Mais quand même, c'est un balado, c'est gratuit, c'est sans commandite et ça veut dire que ça a ses limites. J'ai une vie en dehors du balado. Ce n'est pas un cours universitaire de haut niveau, mais bien de connaissances générales. Donc oui, par moment, vous allez dire « Ouais, mais il y aurait ça, il y aurait ça. » Oui, le but, c'est de fournir les bases pour que les gens aient lire, poussent leur recherche plus loin quand le sujet les intéresse. Et sachez qu'à la fin de chaque épisode, je vais vous suggérer des lectures là, pour approfondir vos connaissances. Pour éviter, par contre, de me surcharger de questions, de demandes et tout ça, sachez que je ne répondrai pas aux questions sur le contenu via mes réseaux sociaux. Ce serait beaucoup trop de gestion si c'était une plateforme là, payante et que c'était mon métier principal. Ce serait autre chose, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, soyez-en bien avisés et je vous remercie à l'avance de respecter cette demande. Je vous fournis des bases. À vous de poursuivre votre étude ensuite. J'ai aussi un certain rythme et s'il est trop rapide pour vous, eh bien le grand avantage du balado, c'est que vous pouvez le mettre sur pause et même reculer avant de rattraper l'information. Pour l'instant, je le répète, on va s'intéresser à une très longue chronologie dans ce cours-ci, donc d'il y a 6 millions d'années à peu près 15 000 ans. Et quand on parle de l'histoire de l'humanité, eh bien elle commence en un temps géologique, celui qu'on appelle le Cénozoïque, qui est aussi appelé l'âge des mammifères. Il y a donc plusieurs millions d'années, le climat global était plus chaud qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même des changements climatiques importants qui ont commencé à affecter l'évolution de ce qui va devenir les ancêtres des premiers êtres humains. Et donc, cette histoire, elle commence en Afrique, qui est quand même un continent qui a peut-être subi des variations un peu moins marquées qu'ailleurs dans cette histoire de changement climatique. Et c'est l'endroit où on va voir des primates qui, il y a entre 6 et 5 millions d'années, vont commencer à évoluer et qui vont vivre en fait plusieurs stades évolutifs qui vont mener à une branche qui est plus proche de l'être humain, qui est celle des hominidés. Alors, quand on s'intéresse aux hominidés, l'espèce la plus ancienne pour laquelle on a des fossiles clairs, parce que ça aussi, ça va toujours rester un problème. Des fois, je vais vous dire, bon, on n'a pas beaucoup de fossiles pour bien comprendre l'espèce. C'est que plus on remonte dans le temps, moins on a de matériel à étudier pour bien comprendre, en fait, ce passage des primates à ce qui peut devenir l'être humain. Alors, hominidé, c'est qu'on s'approche davantage de ce qu'est l'être humain, mais au départ, sachez que les premières espèces qu'on va aborder ressemblent encore beaucoup plus à un singe. Et c'est le cas de cette première espèce qu'on appelle l'Ardipithecus ramidus, qu'on situe à peu près... Je vous le dis tout de suite, selon les livres et selon les dates de vos livres, ça peut un peu varier, mais à peu près 4,5 millions d'années. Et c'est une petite créature là, qui ressemble vraiment plus au singe, mais qui se tient parfois debout et qui a un crâne qui est très près de celui des chimpanzés. Et là, on a l'évolution vers l'Australopithecus anamensis. On a quand même plus de 80, un peu plus que ça, peut-être même aujourd'hui, reste de cette espèce qui a été trouvée entre autres au Kenya, où le crâne est plus un mélange singe-homme. On voit que le bassin est plus large, pour supporter plus de poids lorsque l'on marche debout, ce qui semble être encore occasionnel pour cette espèce. Et les jambes sont encore un peu petites. Donc, on est vraiment comme dans une forme d'hybridation, en fait, vers la bipédie, entre autres. Et ensuite, on évolue vers l'Australopithecus afarensis. Et celui-là, vous le connaissez, parce que le fossile le plus connu a été trouvé en Éthiopie, et c'est Lucy, pour laquelle on a quand même un squelette presque complet. Il n'est pas complet, mais on a quand même beaucoup, beaucoup d'ossements, ce qui nous aide à mieux comprendre cette espèce-là, où on a une espèce qui est essentiellement bipède, donc ça y est, on marche davantage debout, mais on a encore des très longs bras pour s'appuyer au sol quand même, pour aider aussi à la cueillette dans les arbres. Donc, on a un squelette qui est assez robuste, des bras qui sont courbés, qui est encore associé au grimpeur, mais des mains qui commencent à ressembler un peu à celles des humains, qui sont un peu plus articulées que celles des primates. Est-ce qu'on commence déjà à utiliser des branches pour pouvoir brasser ou casser des choses comme des outils? Ça fait partie des hypothèses. Et ensuite, on s'en va vers d'autres variantes de l'Australopithèque qu'on peut appeler l'Africanus, l'Aethiopicus ou le Gary, où là, on commence à avoir des dents plus grandes pour mâcher plus, on a des petits cerveaux, et on va s'en aller, quand on s'en va vers l'espèce Gary, là, on sait qu'on a les premiers outils rudimentaires. Et c'est probablement, je dis bien probablement, et on a plein de chaînons manquants dans la préhistoire, l'espèce qui va lentement mais sûrement nous mener vers le stade Homo. Donc, quand on commence à parler des hominidés avec le terme, l'appellation Homo, c'est que là, les particularités physiques de l'espèce sont plus loin du singe et se rapprochent davantage de l'homme. Et là, dans cette espèce de chaîne évolutive, le plus connu pour l'instant, pour lequel on a le plus de fossiles, c'est Homo habilis. Homo habilis, qui est un physique qui ressemble à l'Australopithèque, mais là, le visage et le crâne sont de moins en moins singes. On a une très grande différence aussi dans les dents, les incisions sont beaucoup plus marqués. Pour couper, trancher, il mange probablement un peu de viande déjà, mais reste qu'Homo habilis est encore un mangeur de fruits à la base. Mais ses mains sont mieux formées, plus habiles pour manier des outils, et même s'il marche debout, il peut encore monter aux arbres. Donc, il est comme un peu hybride encore, Homo habilis, à cet égard-là. Mais pourquoi on lui a donné ce terme-là? Ben, ce nom-là, c'est qu'il fabrique les premiers outils en commençant à frapper les pierres les unes contre les autres, ce qui nous donne les premiers bifaces. C'est sûr que quand vous regardez sur Internet, je souhaite vous inviter à le faire d'ailleurs, parce que je ne suis qu'en format audio, quand on regarde les premiers bifaces, surtout ceux de Homo habilis, vous allez sûrement vous dire, bon, ben, je verrai ça dans la nature, j'aurais aucune idée en fait que c'est un outil, je croirais tout simplement que c'est une roche naturelle. C'est pas nécessairement si évident à voir à l'œil au départ, mais comme on commence quand même à faire des premiers outils, il y a toute cette question qui plane de est-ce que c'est une forme préméditée de pensée selon la fonction de l'objet? On manque là d'informations pour pouvoir affirmer ça hors de tout doute, et comme on est très loin de l'époque de l'écriture, on doit uniquement se baser là sur le matériel archéologique et bon, on va dire organique quand on étudie les fossiles pour y arriver. Donc c'est évident que pour l'instant là, on est encore beaucoup dans les hypothèses par rapport à ces premières espèces d'hominidés. Mais néanmoins, la fabrication d'outils, bien, ça nécessite une bonne coordination, le mains-yeux. On sait qu'Homo habilis, d'ailleurs, semble avoir vécu en groupe. Est-ce qu'il aurait pu y avoir une forme de langage de développer? Encore une fois, sachez qu'on n'a pas assez de matière organique là, pour avoir une idée. Est-ce qu'ils ont des cordes vocales? Est-ce que c'est développé, etc.? Mais c'est sûr que quand on vit en groupe, on doit avoir quand même une forme de communication, parce que vivre en groupe implique aussi une forme d'organisation sociale qui est basée, bon, sur le partage de la nourriture et probablement la fabrication d'outils. d'Homo habilis, nous passons à Homo erectus. On est rendu vers 1,75 million d'années environ. Et c'est une période assez importante du point de vue, on va dire, géologique, climatique, parce qu'il y a vraiment une intensification des changements climatiques. C'est la formation des chaînes de montagnes comme les Alpes, l'Himalaya. Et donc, les espèces évoluent un peu plus rapidement parce qu'on va approcher de périodes de glaciation qui vont durer là, jusqu'à il y a 515 000 ans environ. Alors, c'est sûr que là, les espèces doivent s'adapter et ça accélère l'évolution humaine d'un point de vue biologique et culturel. Alors, quand on remonte à peu près 1,75 million d'années, il y aura à peu près 5-6 espèces d'hominidés qui vont exister, coexister, mais le grand survivant, celui qui s'est peut-être le mieux adapté et qui va voyager, sortir d'Afrique, eh bien là, c'est Homo erectus, qui a une constitution qui est très robuste, des grosses arcades sourcilières, un visage très large, un crâne long et bas qui permet l'expansion du cerveau, et là, on va le trouver, lui, en Afrique, en Asie et en Europe. Il fait partie de l'espèce, et avec peut-être ses collègues, qui va commencer à maîtriser et domestiquer le feu. On joue entre, il y a 2 millions, 1,75 millions d'années là, pour les plus anciennes traces de feu qui sont vraiment travaillé, maîtrisé par l'homme et non pas d'origine naturelle, comme la foudre à titre d'exemple. On sait aussi qu'Homo erectus utilise quand même bien les ressources de la forêt, c'est un chasseur et à cet égard, ben, il développe des outils qui sont beaucoup plus spécialisés comme la hache de main. Là, vous allez dire, la hache de main, on voit en fait que la pierre, qui ressemble un peu à un biface, est beaucoup plus large dans le haut pour que la main agrippe comme il faut l'outil, mais on affine la pierre dans le bas pour qu'elle devienne coupante, pour couper du bois, entre autres. C'est ce qu'on appelle la technologie hachelienne, si jamais ça vous intéresse de pousser cet aspect-là. Et Homo erectus va vivre en groupe lui aussi, Homo habilis le faisait déjà, pour se protéger des carnivores, coopérer pour trouver de la nourriture, la cuire même, peut-être l'entreposer, ne sait-on jamais. Et là, dans cette grande tranche de l'évolution humaine, arrivent des petits nouveaux qu'on a de la difficulté à placer dans la chronologie, et c'est là que je vais vous en parler. Vous avez Homo antecessor, qui est quand même assez intéressante. On n'a pas beaucoup de fossiles. Les plus anciens ont été trouvés à peu près, il y a une trentaine d'années à peu près en Espagne, mais c'est une espèce qui va arriver en Europe, qui, de ce qu'on commence à évaluer, va exister entre il y a 1,2 million d'années et 6 000 ans. Est-ce que ça a coexisté avec Homo erectus en Europe? C'est une possibilité. On vient de faire une découverte en Espagne là, de nouveaux fossiles qui vont peut-être nous aider à mieux comprendre ce chaînon entre erectus et son successeur, qui est Néandertal. Et un autre qui est difficile à situer là-dedans, et lui, vous l'aviez peut-être vu passer dans les nouvelles et tout ça, parce que quand l'espèce a été, on va dire, confirmée, il y avait quand même beaucoup de publications grand public là, qui lui ont été consacrées. C'est Homo naledi, qui est une espèce disparue, qui a été découverte cette fois-ci en Afrique du Sud, mais on a beaucoup, beaucoup de difficultés avec ce qui reste comme fossile de le dater précisément. Et donc, où est-il dans l'arbre évolutif de l'espèce humaine? C'est encore difficile à dire. Mais donc, ils sont là. Et d'Homo erectus, eh bien, on pense à Néandertal. Néandertal qu'on va voir beaucoup là, en Europe, en Eurasie, qui a un crâne qui est beaucoup plus humain, une constitution qui est toujours très, très robuste, mais là, ses mains sont super bien articulées et son industrie lithique, donc les outils en pierre qu'il développe, sont beaucoup plus définis et complexes qu'Homo erectus. On a des pointes de flèches. Néandertal est un chasseur, mais pas que. On peut dire que pendant longtemps, dans les livres de préhistoire, Néandertal est un peu présenté comme un rustre qui méritait presque d'être remplacé par Homo sapiens. On n'est plus là du tout en 2024. Loin de là, Néandertal, maintenant on le sait, était capable de plonger pour aller chercher des fruits de mer, donc il faisait partie aussi de son alimentation. On a plusieurs fossiles qui avaient l'oreille du surfeur parce qu'il fallait qu'il plonge pour aller chercher les crustacés. C'est Néandertal finalement qui a aussi fait la première corde en chanvre. Ça a été découvert du côté de la France. Alors, pendant longtemps, on disait que c'était Homo sapiens, mais non, c'est Néandertal. Néandertal qui aussi, inhume ses morts en groupe parfois et qui va aller jusqu'à faire des espèces d'arrangements avec des stalactites petite, dans des grottes. En fait, ça a été découvert ça, du côté de Bruniquel. C'est une des grandes découvertes en lien avec Néandertal, où on réalise qu'il était capable, avec un éclairage très limité, là, de s'enfoncer assez loin dans les grottes pour faire des assemblages. Est-ce que c'était lié au sacré, au monde du spirituel? On peut se poser la question, parce que déjà d'inhumer ses morts en groupe, même si c'est des tombes très simples, ça nous amène quand même la question des croyances religieuses. Et c'est quand même pour Néandertal qu'on suspecte, je dis bien qu'on suspecte, qu'il y a une forme de communication verbale. Est-ce que ce sont uniquement des grognements, des codes par grognement? C'est une possibilité, mais vu la complexité, on va dire, des interactions sociales et comment ils fonctionnent, tout porte à croire qu'il y a une forme de communication verbale pour Néandertal. Et Néandertal va... on joue à peu près, là. À peu près, on est rendu à peu près il y a 400 000 ans jusqu'à à peu près 50 000 ans. Et là, lentement mais sûrement, il se mélange à une autre espèce qu'on commence à suivre un peu partout, même en Asie et tout ça, qui est Homo sapiens et éventuellement Homo sapiens sapiens. On parle de l'homme moderne, l'homme intelligent, très intelligent, qu'on a déjà appelé Cro-Magnon en raison d'une grotte, en fait, en France, où on avait trouvé des fossiles. Et là, il y a ce mélange, on peut maintenant le démontrer du point de vue génétique, entre les deux espèces. Donc, ce n'est pas un remplacement parce qu'une espèce est meilleure que l'autre, mais bien plus une hybridation, en fait, de ces deux espèces qui va mener vers l'homme moderne. Et les caractéristiques biologiques de celui qu'on appelle Homo sapiens, au final, vont vraiment être presque identiques aux nôtres. Il a le même potentiel, les mêmes habiletés intellectuelle et il va se déplacer partout en Méditerranée. C'est lui qui va arriver dans la vallée du Nil, peut-être même depuis l'Afrique tropicale, donc il est en Afrique aussi. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on arrive vers il y a à peu près 40 000 ans, on passe à ce qu'on appelle lentement, mais sûrement le paléolithique supérieur, où là, dans l'évolution humaine, on va commencer à peindre, à essayer de raconter son histoire par l'image, et on va s'en aller lentement, mais sûrement, vers des campements qu'on va réoccuper selon les troupeaux de chasse. On va suivre sa nourriture et on va s'établir à différents endroits dans une année, ce qui, lentement, mais sûrement, nous mènera vers ce qu'on appelle les époques néolithiques. C'est, je le dis au pluriel, on va en parler dans le cours 2, mais donc le processus de sédentarisation qui ne se fait vraiment pas partout en même temps et à la même vitesse. Alors là, on arrive, quand on arrive il y a 40 000 ans à peu près, vers une espèce qui est beaucoup plus organisée et qui va arriver avec des nouveaux changements technologiques importants. On commence à faire de la ponction, de la perforation du cuir. C'est Homo sapiens qui développe l'aiguille à coudre faite en os. On commence à développer des lames aussi qui sont de plus en plus pratiques là, pour couper le cuir, couper le bois, probablement aussi là, pour la chasse en général. Donc, on a quand même une forme de révolution culturelle dans certaines régions d'Europe, entre autres, qu'on commence à observer à cette époque-là. Et on se doute bien là, que les relations sociales sont beaucoup plus sophistiquées parce que là, on commence à développer des symboles visuels. On a beaucoup plus d'ornementation, de bijoux et surtout d'art rupestre et pariétal. Là, ici, on parle d'œuvres d'art sur l'extérieur des cavernes ou des parois rocheuses ou à l'intérieur. Pariétal, c'est vraiment à l'intérieur des grottes, des cavernes qui commencent à être de plus en plus élaboré. Et là, quand on arrive, il y a à peu près 45 000, 40 000 ans, jusqu'à à peu près, il y a 12 000, 10 000 ans, on va commencer à entrer dans ce qu'on appelle la grande ère des chasseurs-cueilleurs, surtout du côté de l'Europe. Et là, ben, on arrive avec ces grottes qui nous racontent, en fait, des scènes de chasse. Pendant longtemps, bon, c'est sûr que la grotte Chauvet, Lascaux, Altamira en Espagne étaient parmi les plus connues et dans les plus anciennes, surtout pour Chauvet. Et là, ben, on est rendu avec des nouvelles technologies pour la datation. C'est très récent, d'ailleurs. C'est l'Université Griffith en Australie qui est un petit peu la chef de file dans ces nouvelles techniques de datation, entre autres, où on prélève de très, très petits fragments de couches minérales sur les peintures. On essaie d'atteindre la plus ancienne couche minérale, celle qui est collée, en fait, sur les pigments pour essayer de bien les dater. Et c'est là où on a des petites surprises, parce que du côté de l'Indonésie, ben là, on a, pour l'instant, en tout cas, les plus anciennes œuvres narratives. Ça veut dire que c'est pas juste des lignes. Néandertal faisait déjà des lignes rouges. Là, on essaie de raconter des scènes scènes de chasse ou des scènes qu'on a peut-être de la difficulté à comprendre, qui sont peut-être un peu de l'ordre, on va dire un peu surnaturel, mythologique, mais reste que là, on commence à jouer dans des datations de 48 000 ans, 50 000 ans et plus, en fait, ce qui est quand même très ancien. Donc, plus on va avancer dans les prochaines années avec ces nouvelles techniques de datation, il se pourrait que certaines grottes déjà connues d'art figuré soient plus anciennes que ce que l'on pensait. Donc, ça, c'est quand même un coup de théâtre assez intéressant. Et donc, dans le cours 2, on passera justement lentement, mais sûrement, vers la sédentarisation. Mais quand on parle de la préhistoire, on parle aussi beaucoup de migration d'Homo sapiens. Ils bougent énormément. Ils peuplent une bonne partie de la planète, en fait. Et ça nous amène à toutes ces nouveautés, ces changements de perception sur les migrations du côté des Amériques. Parce que si l'idée que les gens aient traversé le détroit de Bering pour s'établir en Amérique il y a 12 000 ans, c'est admis depuis longtemps, là, on est rendu avec plusieurs recherches archéologiques, mais aussi en sciences appliquées, qui ont permis là, de jeter un éclairage qui est beaucoup plus diversifié sur ceux qu'on pourrait appeler les premiers habitants des Amériques, et donc de repousser les dates sur les premiers immigrants du continent. On commence à peine à en parler dans les livres d'histoire, ça c'est très 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 récent, mais donc, on part toujours avec cette idée qu'il y a eu, une grande vague de migration de gens venus par le détroit de Bering à l'époque de la dernière ère glaciaire. C'est un peu ça, en fait, le récit de base que vous allez voir un peu partout, qu'on enseigne aussi souvent à l'école. Et c'est un récit qui entre en contradiction avec la tradition orale de certains peuples autochtones, et ça depuis plusieurs années. Et donc, grâce à l'archéologie et les études d'ADN, entre autres, on est en train de réaliser que l'histoire du peuplement du continent des Amériques, on parle pas juste d'Amérique du Nord, a été vue de manière beaucoup trop linéaire et beaucoup trop simple. Et là, on est en train de réaliser que ça a été beaucoup plus complexe et que ce n'est pas une vague de migration, mais plusieurs vagues de migration qui vont mener vers nos premiers habitants sur le continent de l'Amérique du Nord, mais aussi de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. En fait, c'est beaucoup plus diversifié que ce qu'on aurait pu imaginer. La théorie du détroit de Bering est toujours valide, mais ce n'est plus la seule voie par laquelle des gens seraient venus ici, et surtout la datation du passage est beaucoup plus ancienne que ce qu'on croyait. En fait, on sait là, que les changements climatiques qui ont mené à la dernière ère glaciaire vont commencer il y a à peu près 25 000 ans. C'est donc Homo sapiens. Homo sapiens qui arrive d'Asie, qui migre, il est à pied, hein, fait que ça lui prend du temps. Et il va arriver du côté de la Sibérie. La glaciation fait geler de grandes portions d'eau et ça permet de nouveaux passages. Et pour les gens qui sont intéressés à voyager, ils vont entreprendre ce grand voyage sur ces grandes bandes de glace il y a à peu près 25 000 ans. Donc, il y a 25 000 ans, ce qu'on appelle la Béringie, c'est presque un territoire, là. Ça s'étend de l'est de la Sibérie jusqu'au Yukon. C'est un immense chemin glacé là, qui traverse en son centre. Et aujourd'hui, c'est complètement immergé, ça n'existe plus. Mais on comprend donc qu'il y a ce détroit qui était un lieu de passage pour les premiers habitants des Amériques. Et là, il y a eu quand même, depuis longtemps, il faut le dire, des découvertes archéologiques, entre autres au Yukon, qui ont démontré qu'il y a probablement des gens qui ont traversé le détroit de Bering et qui sont restés isolés dans cette région-là des Amériques il y a à peu près 24 000 ans. Et ça, c'est le secteur des grottes de Bluefish. Et écoutez, c'est des théories qui existent depuis la fin des années 90 grâce à l'archéologue québécois Jacques Saint-Mars. Il est décédé en 2021 d'ailleurs. Lui, il avait fait des fouilles archéologiques dans le secteur de ces grottes-là, entre autres dans les années 70. Et il avait commencé à identifier des fossiles qui, selon lui, mais il n'y avait pas encore toute la technologie pour démontrer ces théories, on voyait des traces d'outils façonnés. Donc, ils se disaient, non, attention, il y a des gens qui ont été là, on va dater ça au carbone 14 et on va arriver à l'idée qu'il y a des gens qui ont traversé la Béringie il n'y a pas 12 000 ans, mais bien 24 000 ans. Et donc, les gens qui vont traverser vont le faire sur une très, très longue période de temps. Et ils vont donc être, ces gens-là, les premiers humains arrivés sur le continent américain. Donc, c'est à peu près 10 000 ans plus tôt que ce que l'on croyait. Et à l'époque, on ne le croyait pas, M. 5 Mars. Aujourd'hui, on est en train de dire, oui, effectivement, il a raison, parce qu'il y a de plus en plus de preuves et de datations qui pointent vers le fait que les humains se sont installés dans les Amériques. On est beaucoup plus proche d'il y a 25 000, même 30 000 ans qu'il y a 12 000 ans. Il y a quand même aussi des études génétiques qui ont été faites pour mieux comprendre les origines ethniques des des habitants, des premiers habitants des Amériques. Et on a réussi à faire ressortir les liens entre les peuples autochtones d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale et l'Asie. Donc, génétiquement, il y a des liens entre les deux continents. Et l'échantillonnage était quand même assez important, là, et jumelé à la datation de matière organique au carbone. On est vraiment en train de comprendre qu'il y a des gens qui sont venus de Sibérie, probablement ceux qui sont venus il y a plus de 12 000 ans, 15 000 ans, mais on en a aussi qui sont venus du nord de la Chine. Alors là, on est rendu à avoir deux grandes vagues migratoires pour ce qui est des premiers immigrants des Amériques. La plus ancienne, il y a 26 000 ans, 19 500 ans, dernière glaciation, ça rend les conditions climatiques possibles pour que les gens disent, bon, le nord de la Chine est inhabitable à ce moment-là, on va bouger, et ils vont bouger graduellement vers la Sibérie, et de la Sibérie, ben, ils vont s'en venir entre autres vers le Yukon. Et il y a 11 500 ans, ben, là, le climat est plus doux et il y a de nouvelles migrations. Les gens commencent à bouger beaucoup plus vers le continent, entre autres nord-américain. Et c'est là où on voit là, les liens génétiques qui se dessinent. Alors, entre les ancêtres des peuples autochtones et même une culture du Japon qu'on appelle la culture Ainu, on commence à voir des liens génétiques aussi. Il y a des traces de présence humaine aussi qui ont été découvertes à Monteverde au Chili. Et quand on a daté les artefacts, on était à 14 500 ans. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si dans vos livres qui datent peut-être un peu, vous voyez le détroit de Bering il y a 12 000 ans, la théorie du détroit de Bering est toujours d'actualité. Mais on parle d'au moins deux grandes vagues migratoires et on parle de gens qui arrivent probablement de différents lieux et qui n'arrivent pas en même temps. Et on s'est rendu compte aussi, il y a eu des découvertes, en fait, des fouilles ont été faites, des fouilles sous-marines dans une fosse, en fait, près de Tallahassee en Floride, qui vont aussi arriver quand même à davantage 14 500 ans, 15 000 ans. Alors, ça nous montre que des gens qui circulent en Amérique du Sud jusqu'en Floride, beaucoup plus tôt, en fait, que la première théorie du détroit de Bering. Alors, ça aussi, c'est quand même assez intéressant parce que là, on est du côté de la Floride. Et ça vient peut-être confirmer les légendes orales autochtones qui disaient non, pendant les glaciations, il y a sur la côte ouest, entre autres, oui, la Colombie-Britannique, ça n'a pas gelé. Il y a des gens qui sont arrivés par bateau, nos ancêtres sont arrivés par bateau. Et ça, on a toujours mis ça de côté jusqu'à ce que dans les années 2010, il y ait des chercheurs qui s'intéressent de manière beaucoup plus active. Et là, on s'est rendu compte, entre autres en 2017, sur l'île de Tricket en Colombie-Britannique, en se fiant en fait aux traditions orales de la nation Elstuk, qui a effectivement une partie de la côte centrale de la province qui a probablement pas été affectée par la glace. Et c'est donc possible, en fait, qu'il y ait des gens qui soient arrivés de ce côté-là sur de petites embarcations, des pirogues, très probablement, sur ce qui est en fait une petite île. Et comme elle n'avait pas gelé, bien, ils ont pu s'y établir. Et là, ils ont trouvé des traces de feu de camp, des fragments d'outils de pêche et les dates à peu près 14 000 ans aussi. Donc, 14 500 ans la Floride, on joue aussi dans ces datations-là là, pour le Yukon, pour certains outils. On en a un des plus anciens que ça, très possiblement. Alors, ça nous montre là, que les gens ont bougé autant du côté de l'Amérique du Nord que de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, plutôt que ce qu'on avait imaginé. Alors, ça, c'est quand même tout un changement dans la compréhension de qui sont les premiers habitants des Amériques. Parce que pendant longtemps aussi, on disait, bon, les premiers, c'est la culture Clovis, surtout en ce qui concerne donc plus l'Amérique centrale, parce que, bon, on avait étudié des outils, en fait, là, dans une grotte, on les avait datés d'à peu près 12 000 ans. Aujourd'hui, il y a eu d'autres datations de ces outils-là, puis on est plus rendu à 13 500 ans. Donc, les nouvelles techniques de datation sont en train de faire reculer un petit peu aussi toute l'histoire, en fait, des grandes migrations humaines. Et si on s'en va, en fait, de notre côté, au Canada, les plus anciennes traces sur la longue durée, bien, se trouve entre autres au Nunavik, là, où on a les Dorsétiens, dont les artefacts, on peut même parler de fossiles, ont été découverts près du cap Dorset dans l'île de Baffin. Alors, eux nous ont laissé des traces, vont succéder aux Paléo-Esquimaux, qu'on connaît très très peu, soit dit en passant, on manque vraiment vraiment d'informations sur eux, et vont passer là, du moyen gibier à la chasse aux mammifères marins, donc le phoque, le morse, le beluga, même le narval. Et là, on a une industrie lithique, donc des outils, là, comme des arpents, harpons, des outils de dépeçage qui sont adaptés, qui sont en pierre. Et au moins, cette culture-là, les Dorsetiens nous laissent des vestiges de maisons longues, des œuvres d'art sur pierre. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont très, très bien adaptés à leur environnement et bien établis aussi. Ils disparaissent à peu près vers l'an 1000, possiblement là, en raison des changements climatiques. Alors, on a beaucoup, beaucoup d'artefacts comme ça qui se découvrent d'année en année. Les changements climatiques, la fonte des glaces va probablement en révéler davantage, ce qui devrait nous aider à mieux comprendre là, la préhistoire plus du Canada à proprement parler. Alors, si tout ça vous intéresse, c'est toute une histoire quand même. Deux suggestions de lecture pour vous, pour cette première. J'essaie de vous suggérer généralement des livres assez généraux. Occasionnellement, par contre, des fois, je vais vous envoyer ou vous référer des études aussi peut-être un peu plus poussées. Mais si la préhistoire, ce que j'appelle les BABA de la préhistoire vous intéresse, il existe quand même un livre assez intéressant chez Talendier, ça s'appelle « La préhistoire en 100 questions » et c'est écrit par Jean-Paul Demoule, donc aux éditions Talendier. Donc ça, c'est une belle introduction, une belle façon là, de répondre à certaines questions qu'on peut avoir sur la longue histoire de la préhistoire. C'est quand même un gros livre, là. C'est 100 questions, mais le livre fait 329 pages. Donc, ça répond à beaucoup de questions. Vous avez aussi « La brève histoire des origines de l'humanité » d'Antoine Balzo, toujours chez Talendier, qui est aussi quand même un récit pour vous aider à comprendre, en fait, les grandes étapes de l'évolution humaine. Donc, deux livres quand même intéressants pour vous, si jamais ce sujet vous intéresse. Alors, voilà pour le premier cours de ce petit cours d'histoire mondiale. Comme je vous disais, ce sont les grandes lignes de la préhistoire. Dans notre deuxième cours, on va s'intéresser à la fin de la préhistoire, est-ce que le passage au néolithique, on va essayer de couvrir quand même une bonne partie de la planète pour voir comment, lentement mais sûrement, dans différentes régions du monde, on s'en va vers la sédentarisation et donc les premiers villages et même les premières villes. Alors, à vos cahiers de notes si jamais ça vous intéresse pour le deuxième cours. Alors, j'espère que cette première formule a pu vous plaire et on se revoit très bientôt. Thank you.